RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, il est 9h26. Oui, je le sais, on est en retard, mais c'est pas notre faute. On a une bonne raison. Le président Macron était, il y a encore quelques minutes, en direct sur RMC. C'était l'événement ce matin, interviewé par Apolline de Malherbe pour revenir sur les Jeux Olympiques à un peu plus de 100 jours de l'événement. Il y avait beaucoup de choses à dire. Le président de la République a répondu à toutes les questions concernant la sécurité, concernant l'organisation elle-même de ces Jeux Olympiques, le budget. Le fait que les Français se posent beaucoup de questions sur la réussite des JO et puis bien sûr la situation en Iran. On va débriefer avec les grandes gueules ce matin, c'est le grand débrief avec les GG autour de moi. Aujourd'hui Stéphane Manigold, le restaurateur, salut Stéphane.
Salut Olivier, salut les GG. Après 12 pompes réalisées, puisqu'il faut faire du sport.
T'as fait du sport en écoutant le président Macron.
Mais j'étais avec Joël en loge.
Quel mytho. Bruno Poncet, le cheminot avec nous. Salut Bruno.
Bonjour à toutes et à tous.
Et puis nous sommes avec Joël Dagosseri, coach de vie. Salut Joël.
Bonjour à tous.
Effectivement, nous étions ensemble devant notre écran à regarder, écouter le président de la République. Alors bien sûr, il a été question des Jeux Olympiques. C'était en direct du Grand Palais qui va accueillir plusieurs épreuves des JO. Mais comme l'actualité elle est là, elle s'impose à nous et au président de la République. La première question d'Apolline concernait la situation en Iran. Le président de la République qui a accusé l'Iran d'avoir décidé de frapper Israël et qui a apporté des précisions sur la participation française à la défense d'Israël face aux frappes iraniennes. On écoute le président de la République.
RMC, les grandes gueules.
Nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc, essayer de convaincre Israël que il ne faut pas répondre en escaladant, mais plutôt isoler l'Iran, réussir à convaincre les pays de la région que l'Iran est un danger, accroître les sanctions, renforcer la pression sur les activités nucléaires et puis retrouver un chemin de paix dans la région. C'est aussi pour cela que nous appelons à la prudence sur Rafah et que nous avons demandé une trêve conduisant au cessez-le-feu pour pouvoir procéder aux opérations humanitaires. Mais la situation est très instable aujourd'hui et donc il y a une très forte mobilisation diplomatique qui se fait autour de ce contexte.
Voilà, le président de la République qui a expliqué que la France avait procédé à des interceptions à la demande de la Jordanie. Donc la France a directement participé à la défense d'Israël attaqué par l'Iran. Est-ce que les explications d'Emmanuel Macron vous ont convaincu, Stéphane Manigold ?
Il était dans son rôle, maintien de la paix. Maintenant, quand on veut être le premier de cordée, il faut savoir aussi, puisqu'il a parlé d'escalade, il faut aussi savoir répondre si la France avait été attaquée. Avec 3500 drones qui arrivaient en France et qui frappaient Paris, j'aurais été fier qu'on réponde. Donc,
oui, mais là, on voit bien que la France, comme les États-Unis, essaie de calmer le jeu. En gros, il faut que ça s'arrête maintenant.
C'est ce qui va se passer. Mais Israël a le droit de se défendre. Elle est attaquée. C'est un pays, je rappelle qu'il y a 9 millions d'habitants. C'est un tout petit pays au milieu de plein de pays hostiles. Oui, Israël a le droit de se défendre.
Joël Dagosseri, la position de la France. La France a eu raison de participer à la défense d'Israël et ensuite d'appeler au calme.
Ce qui nous explique, en tout cas ce que j'ai compris, c'est que ce n'était pas directement la défense d'Israël, mais plutôt la défense de la Jordanie. Oui. Donc, ça permet peut-être un peu de
c'est
calmer.
C'est pas la Jordanie qui était attaquée, mais bon.
Oui, bien sûr, mais il a bien expliqué. C'est vrai que on l'a peut-être nous pas vu comme ça, mais c'est vrai que l'Iran a du coup traversé plusieurs pays pour atteindre.
Oui, parce que rappelons que Israël et l'Iran, ce sont pas des pays frontaliers.
Exactement.
Et que lorsqu'on envoie un drone ou un missile, on traverse notamment la Jordanie et d'autres pays.
C'est ça. Donc ces pays ont tout autant le droit, je pense, qu'Israël d'appeler, je vais pas dire au secours, mais à l'aide en tout cas de leurs alliés pour défendre leur espace aérien. Donc c'est bien qu'il ait rappelé parce que ça peut permettre aussi de calmer un peu les esprits, de pas se dire tout de suite oui bah la France va tout de suite défendre Israël. Non, il y a d'autres pays dans lesquels la France est impliquée. Donc ça c'était bien. Après sur cette situation, moi j'ai quand même eu l'impression en regardant tout ce qui a été fait ce week-end qu'on assistait à une télé-réalité, c'est-à-dire que c'était oui la réalité mais que c'était un peu scénarisé parce que attaquer un pays, le prévenir 48 heures avant. Israël a le temps de faire une réunion pendant 9 heures sur ce, à le temps que les missiles arrivent sur son sol, etc. Donc tout ça, en fait, je me suis dit, c'était juste un peu pour montrer que on réagit, on a été attaqué, on réagit. C'est bien, mais je pense, comme le président l'a dit, que ça ne sert à rien d'aller dans l'escalade. Je pense que le sujet est clos sur ce point-là. En tout cas, je l'espère.
Bruno Poncet.
Alors, on est tous d'accord pour dire que le gouvernement des Mollahs, c'est la pire saloperie qu'il y a au monde. Ah. Enfin, en attendant, je pense que l'Iran n'a fait que répondre à une attaque d'Israël sur le territoire d'Hamas. Et je trouve que Macron a réécrit l'histoire en disant qu'Israël avait été agressé. Si Israël était agressé, c'est par le Hamas, mais c'est pas par l'Iran. Donc aujourd'hui, même si l'Iran est derrière, on peut le supposer. Je trouve que Macron, il a fait un peu deux points de mesure. Parce qu'après, il explique que c'est normal aussi que la réponse d'Israël soit aussi disproportionnée vis-à-vis des Gazaouis, alors qu'aujourd'hui on massacre des Gazaouis et qu'ils n'ont toujours pas fait sortir les otages de Gaza. Ils n'ont surtout pas visé le Hamas. Donc je trouve que Macron, là, il fait deux poids, deux mesures. Moi, je trouve ça hyper, hyper choquant quand tu réécris l'histoire alors que l'histoire, elle a quand même deux jours.
C'est une annexe de l'ambassade déjà. Et les sept anges qui sont allés au ciel voir des vierges, c'était des gens absolument bien, c'est ça?
Oui, non, mais. Tu peux créer aussi des guerres comme tu veux, mais de toute façon aujourd'hui on peut être d'accord. C'est vrai que 40 000 tués, 40 000 civils et enfants en Gaza, c'est vraiment la réponse.
C'est une bonne chose.
Non, mais bien sûr,
c'est une bonne chose pour la paix dans le monde.
C'est assez habile de la part du Premier ministre israélien, parce que jusqu'à présent, quand on écoute Bruno Poncet, Israël était le grand méchant depuis la réplique.
Moi, je ne pense pas que ce soit le plus. C'est pas l'Israël le grand méchant, c'est Netanyahou avec ses copains. C'est différent.
Israël, le gouvernement israélien était le grand méchant. Et là, de nouveau, Israël se présente comme une victime et force ses alliés à défendre le pays. Donc c'est quand même assez habile politiquement de la part de Netanyahou. C'est-à-dire que là, les choses se sont un peu inversées. Et parce que c'est l'Iran qui du coup est montré du doigt, le régime iranien.
On peut quand même intégrer que l'instabilité dans le monde, c'est aussi les talibans, les mollahs.
L'Iran, c'est sûr. Mais d'ailleurs, peu de pays soutiennent aujourd'hui l'Iran, même dans cette région.
Que sont de grandes démocraties où les femmes sont libres, il n'y a pas la lapidation, les mollahs, c'est des gentils personnages avec qui tu as envie de partir en vacances, comme l'ayatollah actuellement à la tête de l'Iran.
D'ailleurs, vous avez vu, la France insoumise semble quand même assez prête à défendre l'Iran. Moi, j'ai été surpris d'Éric Coquerel, notamment, qui expliquait en gros l'Iran avait le droit de se défendre. J'aimerais quand même, l'Iran, c'est 600 pendaisons en 2023. Je rappelle que c'est Mahsa Amini, cette jeune fille qui a été torturée et tuée parce qu'elle portait mal le voile. Je vais rappeler que c'est la charia, c'est l'islamisme. Je rappelle que c'est l'absence totale de liberté. Je rappelle qu'on tue des enfants. J'ai quand même été surpris d'entendre de la bouche même début de la République, des députés comme Éric Coquerel, David Guiraud et Émeric Caron, en fait, en gros, nous expliquer que l'Iran-Israël, c'était la même chose. En fait, on peut détester le gouvernement israélien, mais enfin, il y a une démocratie et puis il y a un endroit où on tue, quoi. On tue.
Il n'y a plus de clairvoyance. De toute façon, LFI, c'est tout sauf Israël. Donc, être, je ne sais pas, la plus grande ordure qui attaquerait Israël. Ils trouveraient un moyen de dire que écoute, ils ont le droit de le faire. Donc ça, c'est pas une question. La question, c'est est-ce que Israël va redevenir la victime? Je le pense absolument pas. Je le pense absolument pas parce que Israël a eu les moyens militaires de se protéger contre les missiles iraniens. Et on rappellera que la Palestine n'a pas la chance d'avoir un dôme qui filtre tous les missiles, etc. Donc c'est pas parce qu'effectivement ils ont été attaqués par l'Iran que tout d'un coup ils vont redevenir les victimes de ce conflit et de cette région. Ça ne va absolument rien changer.
Mais la LFI a fait des européennes et fait de ces élections européennes un combat contre Israël.
Et ça va marcher parce que je regarde les sondages. On peut pas dire que ça décolle du côté de la LFI.
Mais moi, je suis fier que cette gauche ne se mobilise pas derrière la France insoumise et plutôt derrière Glucksmann qui
dit le contraire.
Bah oui. Je veux dire, c'est une bonne nouvelle que les.
Je me pose la question de la stratégie de Mélenchon dans ce domaine. Il pense que ça va être payant électoralement d'être à fond.
Quand tu nommes Rima Hassan
derrière le Hamas.
sur ta liste et t'as pas trop de conviction.
Hein. Bonne pensée.
Moi, je suis hyper. Alors, je peux pas être déçu parce qu'on peut pas être déçu par des gens qui depuis quelques temps disent un peu tout et n'importe quoi sur certains sujets. Mais moi, je comprends pas comment tu peux soutenir l'Iran aujourd'hui. Mmh. Alain, Olivier, on est d'accord tout le monde qu'on a des amies iraniennes. Moi, mes amies iraniennes, elles ont peur pour leur famille, leurs cousins, leurs cousines, leurs parents qui sont là-bas. Ce gouvernement iranien a gazé des enfants dans des cours d'école et aujourd'hui, t'expliques que le gouvernement iranien. Et on ne parle pas des peuples, on ne parle pas du peuple israélien, on parle du gouvernement. Le gouvernement iranien est peut-être le pire gouvernement qu'il y a à l'heure actuelle dans le monde. Je me demande même si les talibans sont pires aujourd'hui. Et tu te rends compte que derrière, tu peux défendre ça, c'est indéfendable. On peut défendre beaucoup de choses, mais ça, c'est indéfendable. Aujourd'hui, l'Iran, c'est le gouvernement iranien et l'ennemi. Moi, je me demande si c'est peut-être pas le moment d'armer la résistance iranienne et de faire péter ce gouvernement d'une façon ou d'une autre, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution. Ces femmes et ces jeunes qui se battent dans la rue depuis plus d'un an et demi, qui sont massacrés à longueur de journée, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment de faire tomber ce gouvernement, et ça serait peut-être ça qui ramènerait un peu la paix dans le coin. Parce qu'à un moment donné, une fois que l'Iran aura sauté, ce gouvernement iranien aura sauté, peut-être qu'on retrouvera la paix. Mais comment veux-tu ramener la paix dans un pays à qui t'as fait les 600 milliards l'année dernière avec des avoirs, les Américains ont rendu de l'argent au gouvernement iranien? Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de déstabiliser les mollahs, mais ceux qui ont mis en place la plupart des gouvernements islamistes, aujourd'hui, on sait qui c'est, malheureusement.
Ouais. Tu vas voir dans 15 jours si l'Iran ferme les approvisionnements de pétrole par sa mère rouge, les approvisionnements de pétrole et de gaz, tu vois, donc un jour les automobilistes français à la pompe comment ça va râler, donc
les Chinois ils se plaignent déjà, donc
mais bien sûr qu'il faut détruire les mollahs et libérer le peuple. Mais aujourd'hui ils le tiennent grâce à quoi? Grâce au pétrole et au gaz. C'est triste, hein. Mais c'est comme ça.
Mais je pense que la liberté des gens est beaucoup plus importante que
On ne fait rien contre nos intérêts. Nous, ça nous paraît, là, en tant que citoyens, complètement fou de soutenir un tel gouvernement. Mais quand tu regardes dans l'histoire, ce gouvernement islamiste, la révolution islamiste en Iran, on a quand même été un soutien de Roménie
qui était en exil en France.
Et
on a permis
exactement. Donc on est quand même à l'origine de pas mal de régimes aujourd'hui autoritaires, voire extrémistes. Donc il faut quand même qu'on se regarde un petit peu dans le miroir.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation en Iran. En tout cas, ce qu'Emmanuel Macron nous a dit, et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure parce que ça sera l'objet d'un GG7 et match avec les grandes gueules. Mais on va continuer de débriefer l'intervention du président de la République ce matin sur RMC. C'était l'événement et BFM TV en direct du Grand Palais. Bien sûr, il s'agissait de mettre à l'honneur les Jeux Olympiques. Mercredi, on sera à 100 jours des JO de Paris. Demain, la flamme va être allumée à Olympie, le site antique en Grèce. Et puis ensuite, elle va parcourir un long chemin pour arriver jusqu'à Paris. L'occasion d'ailleurs aujourd'hui de vous offrir des places. On a décidé de vous gâter parce que vous le savez, RMC, la radio officielle des JO. On va vous offrir 100 places. 100 places pour ces 100 jours. Des places introuvables, mais RMC vous les fait gagner dès aujourd'hui dans chaque émission. Vous allez donc pouvoir remporter ces deux places et vous aurez le choix. Alors, il y aura soit la cérémonie d'ouverture, la finale du 100 mètres, le judo, le tennis de table. On a une chance avec un Français à la natation bien plus encore. Pour cela, c'est simple, vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024, tout attaché, sans espace, au 7-32-16. Un gagnant ou une gagnante à 11h20 sur RMC. Dans un instant, le grand débrief des GG après l'intervention d'Emmanuel Macron. Ça continue. On va parler notamment des JO. On a appris de la bouche même du chef de l'État qu'il y avait un plan B et un plan C pour la cérémonie d'ouverture. S'il y a vraiment des menaces trop fortes, ça pourrait être limité au Trocadéro, voire au Stade de France. On en parle dans un instant avec vous au 32-16.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec autour de la table aujourd'hui Joël Dagosséry, Stéphane Manigold, Bruno Poncet, RMC, radio officielle des JO, RMC qui crée l'événement ce matin avec le président de la République Emmanuel Macron en direct du Grand Palais, interviewé par Apolline de Malherbe, mais aussi par la Dream Team olympique d'RMC. Il y avait notamment Marion Bartoli et David Douillet. Des questions sans concession. En fait, toutes les questions ont été balayées sur la sécurité, les transports, le budget. Est-ce que la France sera prête pour ces Jeux Olympiques? Mercredi, on sera à 100 jours des JO. Et dans les grandes gueules, c'est le grand débrief de cette interview d'Emmanuel Macron. Alors, on a parlé de la situation en Iran, puisqu'ils ont commencé par ça. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet et écouter ce que disait Emmanuel Macron, notamment sur la fameuse cérémonie d'ouverture sur la Seine. C'est du jamais vu. Mais face à la menace terroriste, est-ce bien raisonnable? Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron.
Si on pense qu'il y a des risques, en fonction de l'analyse qu'on fera du contexte, on a des scénarios de repli.
Donc il y a des plans B.
Il y a des plans B et même plans des plans C. Je vais être très clair avec vous. Ouais. Et on les prépare en parallèle. C'est-à-dire
si,
en fait...
Si une semaine avant, si trois jours avant, voire même si 48 heures avant, vous vous rendez compte que le risque est trop élevé et que vous ne pouvez pas maîtriser, à ce moment-là, tant pis.
On fera une analyse en temps réel et donc on a une cérémonie pour tout vous dire, hein. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc, on ne ferait pas toute la scène si on se dit, si l'analyse permettait de...
S'il faut restreindre le lieu.
Exactement. Voire, qui rapatrierait dans le Stade de France, la cérémonie, parce que c'est ce qui se fait classiquement.
Voilà, alors ça, c'est amusant parce qu'il y a, souvenez-vous, il y a quelques mois, il n'y avait pas de plan B, hein, il n'y avait que le plan A. On se souvient ce qu'avait dit la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Et puis maintenant, on apprend qu'il y a non seulement un plan B, mais il y a aussi un plan C. Alors le plan B, c'est le Trocadéro, et le plan C, c'est le Stade de France, c'est-à-dire une cérémonie classique à l'intérieur d'un stade. Est-ce que vous avez été rassuré par les propos du président Joël ?
Tout à fait. J'ai vraiment été rassurée de savoir qu'il y a d'autres plans. Déjà, c'est la moindre des choses avec les menaces qui pèsent au-dessus de nos têtes, qu'on puisse savoir qu'on pourra déplacer la cérémonie ailleurs que sur les bords de la Seine. Donc, moi, ça m'a rassurée de savoir qu'il préparait autre chose. Et je suis certaine que s'il pense qu'il y a un danger, même à J-2, il prendra pas le risque. Et c'est la moindre des choses.
Vous nous pensez?
Moi, je suis réellement surpris parce que si tu organises un événement comme ça et que tu as mis les moyens pour l'organiser correctement et que tu sais que tu es en Vigipirate depuis pas loin de 10 ans, tu n'as pas besoin aujourd'hui de te dire j'ai un plan B, un plan C, un plan D, et le plan D, c'est une cabine téléphonique. Tu as juste à te dire écoute, moi, j'ai sécurisé ce que j'avais prévu parce que je sais que ça fait 10 piges que je suis en danger sur mon territoire et que j'ai les moyens de le faire. Et donc, depuis 10 ans qu'ils préparent ça, ils disent voilà, c'est fait. Moi, je suis hyper surpris d'aujourd'hui d'arriver à se dire on n'avait pas de plan au mois d'avril, c'est bon, maintenant j'ai un plan B. Non, en fait, moi, je réellement.
Alors, peut-être qu'il y avait un plan B dès le départ, mais ils voulaient pas le dire.
Moi, ce qui me rassurait, c'est qu'ils disent carrément écoutez, moi, mon plan A, il est là, et ça sera fait. Il se passe rien, basta. Après, t'as un plan B, ok, voilà, mais moi, te dire ton plan. Mais
on est. Toi, le plan B, ça te rassure pas au contraire.
Mais non, parce que moi, je me dis, c'est-à-dire que t'as un plan B, c'est-à-dire que tu sais que t'as des risques. Donc, tu dis aux gens,
mais on le sait tous. Mais on le sait tous.
Et des risques, t'en as plus 10 ans.
Et personne n'accepterait aujourd'hui que le président.
Aujourd'hui.
Oui, mais bien sûr. Mais personne n'accepterait, avec ce qui vient de se passer, que le président nous dise ah non, moi, c'est juste mon plan.
Tu prends le métro, t'as un plan B ou pas?
Non, j'ai pas de plan B, mais c'est pas ça.
Si tu prends pas le métro, s'il y a une grève, tu marches, tu prends un vélo.
En fait, tu vas pas changer. Tu sais que t'as des problèmes en ce moment, mais tu vas quand même prendre le métro. Lui, il devrait faire pareil.
Il faut qu'on appelle Emmanuel Macron, il faut qu'il nomme Bruno Poncet ministre de l'Intérieur. C'est tellement simple de gérer la sécurité des
vieux. Tu seras le premier à être en prison, toi. Ça, c'est clair et net. Dans une prison turque, en plus. Une prison turque.
Mais cher ami, tu sais que c'est pas à l'intérieur que tu mets les gens en prison, c'est à la justice, pour ton information. Mais dans des régimes que tu adores, tu as raison. C'est vrai que c'est la police.
Est-ce que ça rassure de savoir qu'il y a un plan B et même un plan C?
Mais moi, je vais te dire un truc. J'ai écouté avec attention, comme tout le monde, le président de la République. Et ce que je peux entendre, c'est qu'on est prêt. Clairement, c'est le message qu'il a passé. J'étais convaincu.
Les Français sont inquiets. Parce que un sondage, je disais hier, 53% des Français sont inquiets sur l'organisation de ces JO.
Oui, mais
tu circules pas dans Paris, en fait.
Non, mais j'essaie de regarder un peu ce qui s'est passé dans le monde. Tu vois, j'essaie de me cultiver de temps en temps. Regarde qu'en Grèce ou en Angleterre, nous, on a déjà 95% des équipements sportifs qui sont déjà existants.
Ça, c'est vrai.
Et ont été rénovés. Et le Grand Palais, où on a eu des images absolument magnifiques. Mais moi, je suis très fier que.
Il était totalement rénové.
Imagine, vis-à-vis du monde, t'as des milliards de personnes qui vont regarder.
Donc, t'as été rassuré par Emmanuel Macron.
Moi, j'ai été parfaitement rassuré et je pense aussi que la cérémonie d'ouverture se fera sur la Seine. Je note aussi qu'il y a 220 000 places qui vont être distribuées gratuitement entre les quais hauts et les quais bas. Oui. 220 000 places, moi, je trouve ça exceptionnel. Ce serait dommage de faire effectivement au Stade de France où on peut acquérir 80 000 places en vente. Donc, moi, je trouve que c'était plutôt.
Même si on a revu à la baisse la jauge.
Oui, et puis
au début c'était 1 million.
Oui, mais si tu veux, j'étais au Japon à Tokyo post Jeux Olympiques. Les commerçants, les hôtels, mais c'est bondé de touristes. T'as un boom économique derrière qui est fantastique. J'ai eu la chance d'assister aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. Atlanta, c'est pas la ville la plus bourgeoise des États-Unis. Putain, mais ça a eu un boom pour l'emploi, pour l'économie locale, pour le rayonnement.
D'accord. Donc tu es plutôt confiant. Christelle est avec nous. Et Christelle, ce matin, a eu le privilège de poser une question au président de la République. C'est notre Christelle préférée, celle qui nous fait de merveilleux gâteaux. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un, Christelle. Salut, Christelle.
Bonjour.
La pâtissière. Bonjour, Christelle. De Seine-Saint-Denis qui, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Christelle, elle fait des gâteaux, mais sur mesure. C'est son métier. Christelle, vous étiez en direct ce matin avec le président de la République. Vous lui avez posé une question justement sur ces dangers, ces menaces. Et vous n'étiez pas convaincue que votre fils devait s'y rendre à cette cérémonie. Est-ce que le président vous a rassuré?
Non.
Ah bon?
Non, j'espère vraiment que ce jour-là, il travaillera.
Pourquoi?
Non, parce que moi, je ne suis pas convaincue du tout. 6 kilomètres à sécuriser, je trouve ça compliqué. Je ne sais pas comment ça va être organisé. Je pense que ça va être bien organisé. Mais au-delà des attaques terroristes qu'il peut avoir, moi, je pense aussi à tout ce qu'il y a à côté, les vols, les agressions. Toutes ces choses-là, quoi, parce que ok, il faut qu'on sécurise par rapport aux attentats, mais il y a tout ce qu'il y a à côté aussi, les vols, voilà, les agressions, les bagarres qu'il peut avoir. Donc moi, je suis pas rassurée par rapport à ça.
Enfin, la France, c'est quand même pas le tiers-monde, quoi. Hein.
Oui, non, mais je sais, mais bon, des vols, des agressions, il y en a tout le temps.
Non, mais vous avez raison, Christelle. Ben, on l'a vu, il l'a souligné, il a raison de le souligner. Il y a eu la Coupe du Monde de rugby qui s'est merveilleusement bien passée. Et je rappelle que les Jeux Olympiques ne vont pas que se dérouler à Paris. Hein. Il y aura d'autres villes.
Marseille, notamment.
Marseille,
Châteauroux aussi.
Exactement, Châteauroux. Il y a d'autres villes qui vont accueillir les Jeux. Et on peut que souhaiter que ça se passe bien. Tu sais, moi, j'ai fait un historique.
Ce que dit Christelle, c'est que elle voit déjà l'insécurité. Sécurité au quotidien en France, et elle se dit en plus il y a la menace terroriste parce que forcément c'est une cible, et tout ça fait beaucoup.
Donc on fait rien.
Non,
on fait plus rien.
Mais il faut
être
rassurant.
On se cache, ils ont gagné. Mais non, mais tu sais, j'ai fait un relevé historique des grands événements qu'il y a eu. Le président de la République en a parlé. 1889, la Tour Eiffel, j'en ai parlé tout à l'heure. En 1900, on vilipendait les travaux du métro parisien. Qui aujourd'hui supprimait le métro parisien? Les mêmes qui en 77 critiquaient le centre Pompidou, le voyant comme une horreur architecturale, aujourd'hui c'est loué pour son innovation. Mais d'accord, mais les gens du monde entier viennent. Les mêmes qui en 80 dénonçaient le TGV, en levant dans le monde entier le TGV. Les mêmes qui en 89
l'implantation de la sécurité,
la pyramide du Louvre en 89, en 2015,
Mont-Saint-Michel,
et en 2024, je vais vous dire un truc, dans 5 ans dans les GG, on fera une émission, on dira ceux qui critiquaient les JO de 2024, c'était les premiers à applaudir. Moi je trouve ça très bien et ça a fait rire.
Non, je comprends Christelle, c'est pas la sécurité. Non, je la comprends parfaitement, mais en même temps quelque part je me dis, Christelle, vous dites pas que si votre enfant doit être dehors, c'est mieux qu'il soit à cet endroit-là qu'ailleurs. Parce qu'en fait, toute la sécurité, tous les policiers seront là. Moi, j'ai bien peur que si je me trouve ailleurs que là, justement, je sois en danger, puisque toutes les forces de police, toutes les sécurités vont être concentrées sur ces endroits-là.
Non, jamais autant sécurisé que cet été.
Mais oui, 35 000 forces de l'ordre.
Et des QR codes partout.
Ah, mais Christelle, ce qu'elle veut vous dire, Christelle, c'est que comme elle habite en Seine-Saint-Denis, le trajet entre Seine-Saint-Denis et l'événement, là, tu es un peu dans un désert de sécurité, peut-être. C'est ça qu'elle se pose comme question.
Mais non, parce que c'est pas vieux.
Il y a les Olympiques en Seine-Saint-Denis.
Le jour de l'élection, ils sont tous là-bas.
Justement, moi, c'est le fait que moi, il travaille à Châtelet. Donc, je sais que là, il y aura un périmètre de sécurité et tout ça. Mais quand il rentre à la maison, des choses comme ça, il y aura forcément un peu moins de sécurité à ces endroits-là. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez de policiers.
Il n'y aura jamais autant de policiers à Paris que cet été.
35 000. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est même pas la menace terroriste qui m'inquiète le plus. Parce que je sais que par rapport à ça, il y a des moyens qui sont déployés. Mais c'est vraiment tout ce qui autour, au niveau des agressions. Je veux dire, tous les jours, il y a des agressions. Donc là, on sait qu'il va y avoir des touristes qui vont avoir des téléphones, des appareils photos, enfin plein de choses. Et moi, c'est tout l'à côté qui me fait peur. C'est tout, franchement, c'est tout l'à côté qui me fait peur.
Donc pas encore rassuré par le président de la République. Merci Christelle d'avoir été en direct.
Merci,
bravo pour cette question. Ouais. C'était magnifique.
Merci beaucoup, c'est gentil.
À très bientôt, 32-16. Dans un instant, tiens, on sera avec Apolline de Malherbe. Elle va nous donner un peu son ressenti, les coulisses également de cette interview exceptionnelle que vous avez suivie ce matin sur RMC, que nous débriefons avec les grandes gueules. À tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.